Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Timothée Mémon.
22h03, bienvenue dans l'After, c'est jusqu'à minuit, l'émission qui décrypte l'actualité du football, et même quand celle-ci est en pause, eh bien cette émission s'interroge, vous informe, parle des plus grands moments de l'histoire du sport le plus populaire du monde. Aujourd'hui dans l'After, on va vous parler des clubs amateurs. Quel avenir pour la saison en cours? Quelles conséquences pour les petits clubs qui ont déjà parfois tendance à vivoter en temps normal? Quelles seront les conséquences de la crise sanitaire pour eux? Un sujet également bien putassier dans la seconde heure, puisqu'on va s'intéresser sur les plus grands traîtres de l'histoire de la Ligue 1 et des grands championnats. On se souviendra aussi de leur retour dans leurs anciens stades, des Broncas qui les ont accompagnés. Et puis on jouera ensemble avec le quiz de l'After. Appelez-nous au 32-16 pour réagir. Direct Studio également pour nous accompagner ce soir. Eh bien, il y a celui que l'on a plus souvent vu au snooker ou au velvet, Cajofroy Guichard, Willy Sagnol.
Salut Timothée, comment vas-tu?
Bien, et toi? Il faut signaler que ce sont des bars de Saint-Etienne de l'époque où tu étais encore en âge d'aller au bar.
Le snooker à côté de la fac, c'était l'endroit où il fallait être. Oui.
Ah, il y avait duel, c'était soit le Nord-Ouest, soit le snooker. Voilà, celui qu'on a vu plus souvent au casino qu'à Geoffroy Guichard, mais c'est pas les mêmes casinos, Daniel Riolo, bonsoir. Daniel est peut-être avec nous ou pas?
Salut les amis, c'est mieux si j'appuie sur le bon bouton.
Ah, c'est génial, c'est génial.
Comme c'est vendredi, tu vois, j'ai plus les automatismes.
Bonsoir à toi, j'espère que tout va bien. Celui que l'on a vu à Geoffroy Guichard plus souvent qu'à Lausanne Sport, pourtant il n'a jamais joué pour les Verts, alors qu'il a fait 6 mois à Lausanne, c'est Lionel Charbonnier.
Salut Timothée, salut à tous.
Salut, tu te souviens de tes matchs à Geoffroy Guichard?
Ah oui, bien sûr, qui ne se souvient pas des matchs à Geoffroy Guichard?
Ta victoire 5-0 en novembre 95, je l'ai encore en travers de la gorge.
Elle a fait mal celle-là.
Ah, elle a fait mal, je l'ai encore là. Je l'ai encore là.
Ah ouais?
Ouais, effectivement. Une belle déculottée avec un doublé de Lasland, si je ne me trompe pas. On va tout de suite se lancer dans l'actualité du jour, l'actualité foot. Et il y a pas mal de choses à analyser ensemble, messieurs. Et on va mettre les pieds dans le plat direct. Sébastien Bazin annonce que le versement du sponsoring du Paris Saint-Germain par le groupe Hall, groupe Accor, ne se ferait peut-être pas. Alors Hall est persuadé que le championnat va reprendre et que même s'il reprend en juillet ou en août, des versements auront lieu normalement, simplement en décalé. Mais si le championnat devait s'arrêter, eh bien ce serait forcément un déficit d'exposition très clair pour la marque sponsor du Paris Saint-Germain, qui paye entre 50 et 80 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Contractuellement, eh bien, ces engagements sont assez flous. On ne sait pas vraiment comment cela se passerait si le championnat devait être arrêté à cause de la crise sanitaire. Mais Sébastien Bazin s'est interrogé tout à l'heure sur BFM TV. C'est vrai que ces différents flous juridiques qui entourent le sponsoring dans cette situation si particulière, encore une fois, dans le domaine du sport comme dans la vie civile, on s'interroge sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé peut-être avant. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, Lionel? Imagine-tu par exemple que le sponsor principal du Paris Saint-Germain puisse se défausser si finalement le championnat n'allait pas à son terme?
Oh bah, oui, je pense qu'il va y avoir concertation, il va falloir trouver un terrain d'entente. Pour moi, ça me paraît évident. Maintenant, je veux même pas penser que le championnat n'ira pas à son terme. Ouais. Après, on pouvait s'en douter de tout ça, hein, parce que c'est ce que, enfin, on l'avait dit dès le départ qu'il y aurait des problèmes de sponsoring, parce que ce qui est avancé, c'est surtout la médiatisation de Hall sur les maillots et tout ça. Mais enfin, ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut voir aussi, je pense que il me semble, si je me rappelle bien, que le groupe Accor perd près de 250 millions d'euros avec ses hôtels. Hein, arrêtez-moi si je dis des bêtises. Donc c'est aussi une des conséquences. Qui n'a pas été avancé, mais voilà, et ça va être pour beaucoup de monde pareil, ça va pas seulement être Accor, ça va être pour tous les sponsors, malheureusement, enfin 99,9% des différents championnats.
Daniel.
Non mais moi ça commence un peu à m'agacer tout ça, parce que chaque jour, en fait, on joue à se faire peur. Chaque jour, tous les raisonnements sont élaborés avec l'idée « Et si jamais ça va pas à son terme ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Et machin, il va demander l'oseille ?» Oui, bon, alors on sait déjà que Canal et Bein ont foutu les jetons à tout le monde en disant « On paye pas » et que la Ligue dit au prorata, donc les sponsors peuvent faire pareil, au prorata de ce qui a été joué, vous payez éventuellement le contrat. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de se foutre les jetons et arrêtons de raisonner avec le « si ça va pas à son terme », puisque aujourd'hui, l'unanimité, c'est « on va au bout ». L'UEFA a demandé au championnat d'aller au bout. La fédération s'est positionnée aujourd'hui pour dire « on va au bout ». La Ligue a dit « on va au bout ». Les clubs ont dit « on va se démerder, mais on ira au bout ». Alors pourquoi on joue à se foutre les jetons tous les jours, alors que tout le monde veut qu'on aille au bout, même s'il faut jouer en juillet-août, même s'il faut jouer avec les stades vides? Moi, je veux bien que ça fait parler de se foutre les jetons et de se dire « comment on fait, si, cela, machin », alors qu'il y a une unanimité. Aujourd'hui, tout le monde dit « ça ira au bout, justement pour éviter les catastrophes financières ». Arrêtons avec ça. Ça fait deux semaines maintenant qu'on débat que de ça tous les soirs pour rien. On tourne en rond. Parlons d'autre chose. Parlons du Moloko à Saint-Etienne, Timothée, si tu veux.
T'as raison, Daniel, mais je pense que ce qu'on voit.
Non, mais on joue à se faire peur pour rien.
Oui, il n'y a pas de souci, mais le fait d'en parler, Daniel, dans le football, ça veut dire que aussi, parce que tu sais très bien, hein, j'ai l'habitude de dire ça, le football, c'est le microcosme de la vie, et à travers les problèmes qu'on a dans le football, ce sont toutes les entreprises du monde entier, et de France, si on va en parler, si on veut parler que du championnat de France, mais toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, qui en pâtissent. Je pense que, enfin, moi personnellement, je le vois plus de ce côté-là. Après, pour le reste, t'as parfaitement raison, parce qu'on ira au bout.
Willy, voilà. je vais renverser la question. Est-ce que tu penses que toutes ces notions financières, tous ces impacts potentiels sont aussi les raisons pour lesquelles tout le monde s'attache à tout prix à vouloir finir ces championnats?
Bien sûr. Si c'était pas pour des questions de pognon, on aurait dit allez, terminé, le championnat il est fini et puis basta. La problématique, elle est tout le monde veut le finir. Oui, le championnat. Après, il faudra savoir quand. Et ça va être malheureusement, il y a pas que les footballeurs ou les gens du foot qui vont décider, mais ça va être aussi les autorités sanitaires. J'ai beaucoup entendu dire ici, jamais on le faisait terminer, par exemple en octobre, novembre, décembre. Après, on se cale par rapport à, on fera la trêve peut-être pour laisser jouer le championnat d'Europe, on reprendra après. Après, il y aura la Coupe du Monde. Le problème, c'est de finir une saison très tard. C'est pas un an, deux ans ou trois ans que vous allez impacter, ça va être beaucoup plus longtemps parce qu'il y a des échéances internationales qui vont arriver. Alors je suis un petit peu comme Daniel. Il y a consensus pour dire il faut absolument le terminer. Le problème, c'est qu'il y en a toujours, à un moment donné, il y en a toujours un qui sort un petit peu du bois ou de qui avait rien dit peut-être dans des réunions et puis qui d'un coup annonce il faudrait le finir maintenant. Ou c'est ça la problématique, c'est qu'à un moment donné, quand t'as toujours l'impression qu'il y a un consensus et puis patatrac, parce qu'il y en a encore un qui va dire sa pensée. À un moment donné, je pense que
la majorité, Willy, tout simplement, tout le monde va vouloir que ça se joue et puis c'est tout.
Bien sûr. Maintenant, moi, ce que j'aimerais par rapport à en tant qu'amateur de football, en tant qu'acteur du football, j'aimerais simplement une chose, c'est que la seule chose qu'ils peuvent décider aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va au bout ou pas de ce championnat. Parce que ils ont la possibilité d'aller au bout du championnat en décalant jusqu'à septembre, octobre, éventuellement novembre. Il y a éventuellement la possibilité.
Mais ils attendent les infos sur le déconfinement. Et comme ça va arriver mi-avril pour une décision de déconfiner, pour certaines catégories de personnes, je voulais dire, eh ben, les joueurs de foot vont faire partie de ça avec des entraînements adaptés. Je vous dis que moi aujourd'hui, je suis sûr, le 15 mai, ça rejoue.
Voilà. Non, impossible. C'est impossible, Daniel. Impossible. Parce que le déconfinement, moi, je pense que tout le monde, aujourd'hui, en France, se dit, bon, alors, ok, allez, ça va être, fin avril, on va déconfiner, tiens, une telle partie ou telle partie de la population ou telle région. Mais les gars, ça va prendre des semaines et des semaines avant que tout le monde puisse bouger un petit peu. Et si jamais t'es jamais, je sais pas, si par exemple, t'as pour une raison X ou Y, tu as, on va dire, l'Île-de-France, parce que c'est là où il y a le plus gros cluster, parce que machin, et qu'on te dise, eux, vous serez déconfinés tout à la fin. Eh ben écoute, joueur de foot ou pas, eh ben tu ne sortiras pas de la région. Tu n'auras pas le droit de sortir de la région, tu n'auras pas le droit d'aller t'entraîner, parce que le foot, c'est pas une priorité pour les services,
je te dis que ça va
pour l'État.
Et moi, je te dis que ça le sera.
Ah, mais si, non, mais à ce moment-là, comment tu vas pouvoir
ça
justifier...
Ça va l'être par les intérêts économiques. Tu te rends pas compte du nombre de gens que ça plombe.
Comment tu vas justifier le fait de filer des dérogations à des footballeurs ou à des entreprises sportives quand tu as des centaines et des milliers peut-être, soit de petits artisans, des gens à leur compte, de machin, même des grosses entreprises qui vont être au bord de la faillite. Comment tu vas le gérer?
Justement, ils vont pas en mettre encore plus dans la merde, Willy, ils vont essayer d'aider tout ce qu'ils vont pouvoir aider. Donc ils vont favoriser le déconfinement pour le foot le plus vite possible. À côté de ça, ils vont aider toutes les autres petites entreprises qui vont être dans... Tout le monde va être aidé, Willy. Il y a pas de justification. Il va pas être question de faire passer le foot au-dessus d'autres entreprises.
Comment tu fais?
Mais il va pas s'agir de ça du tout.
Si on te fait un déconfinement de manière régionale. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Mais si pour certaines personnes, ce sera pas. Mais là, on suppute sur ce qu'on ne sait pas. Oui,
messieurs,
je te dis sur certaines personnes.
Daniel,
sportifs vont faire partie de ces personnes.
La potentialité d'avoir un déconfinement régional, c'est pas nous qui supputons. C'est le Premier ministre qui a dit que c'était une éventualité. Nous qui l'avons inventé, ça.
Oui, et il y aura pour certaines catégories de personnes aussi.
Alors, messieurs, effectivement, ce sont des choses auxquelles les uns et les autres s'interrogent. Je rebondis sur vos propos en disant, vous disiez tout à l'heure, une fois de temps en temps, il y en a un qui sort du bois en disant qu'il est pour la fameuse saison blanche. Ça a été le cas de Jean-Michel Aulas, qui a été le premier à dégainer tout de suite après l'annonce du confinement. Aujourd'hui, il y a Denis Lecin, qui est le président de Brest, qui a envoyé un courrier à l'ensemble des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2. Je ne vais pas vous le lire en entier parce que c'est un peu long. Il y a 7 points précis pour finalement 2 idées essentielles. Les points, c'est cela. Le facteur essentiel, c'est la santé, on le savait déjà. Le football est un loisir et ses intérêts doivent arriver après ceux de la nation, évidemment. Le public ne voudra pas revenir au stade trop tôt. Reprendre trop tôt pour des raisons économiques ternirait l'image du football. La vraie déclat, c'est celle-ci. Il souhaite que la saison soit considérée comme terminé à ce jour, et il rappelle que, à ses yeux, le foot doit se jouer de septembre à Metz, c'est sa temporalité naturelle, et surtout pas de match à huis clos, parce que tu parles, Daniel, d'une reprise le 15 mai. Ça me paraît personnellement un peu anticipé, mais ça n'est que mon avis. Mais une reprise le 15 mai, ça veut dire a priori, dans les conditions de ce qu'on sait de cette épidémie, ce serait à huis clos.
Oui, à huis clos, bien sûr.
Est-ce que les clubs vont accepter de jouer 10 matchs?
Mais ils accepteront, mais c'est ça ou rien, c'est ça où il n'y a pas d'oseille, évidemment qu'ils vont accepter. Il n'y aura pas de monde dans les stades avant cet été, ce sera à huis clos, évidemment. Soyez logiques, les amis, ça jouera à huis clos parce qu'il faut finir. Vous vous rendez compte de ce que c'est la menace de ne pas recevoir les droits télé? C'est la clé sous la porte. Donc, ils vont recevoir l'oseille en jouant à huis clos. Évidemment que ça jouera comme ça. Et c'est pour ça qu'ils voudront aller le plus vite possible. Et ça va se faire dans la plupart des pays de cette façon.
Lionel, aussi sûr que Daniel sur le fait que les clubs baissent leurs pantalons et disent ok, on joue à huis clos.
Mais ils baissent pas leurs pantalons, les clubs, ils font ça pour leur survie. Timothée, je comprends pas la version de ils baissent leurs pantalons. Ils baissent pas du tout leurs pantalons.
Tout le monde s'est prononcé, alors peut-être pour faire plaisir à leurs supporters, mais tout le monde s'est prononcé en disant il faut pas reprendre à huis clos. C'est la grande majorité, tu le disais, il y a une immense majorité qui veut finir la saison. Oui, il y a une immense majorité qui dit on veut finir la saison avec notre public aussi.
C'est aussi ce qu'avance dans sa lettre, monsieur, que tu disais là, Timothée.
Denis Lecin, le président de Brest.
Voilà, c'est aussi ce qu'il avance dans sa lettre. De toute façon, moi, je pense que si ça se termine,
le président de Brest,
dans les dates de Daniel, si on est sur cette configuration-là, obligatoirement, ça sera à huis clos, puisque de toute façon, comme le disait Willy, et comme l'a dit le Premier ministre, il y aura des déconfinements par rapport aux régions, par rapport à tout ça. Donc ça voudra dire qu'il y aura des stades qui seront... tu peux pas permettre d'avoir certains, par exemple, en plus les manifestations, on va y aller crescendo, les manifestations, ça sera par petits groupes, on va faire des groupes de 1000 peut-être, des choses comme ça, on va y aller crescendo, je pense. Donc tu peux pas accepter un championnat avec, allez j'extrapole, un stade plein et une autre région, un autre stade vide. C'est pas normal. Donc ça sera tout à huis clos.
Tout si sera c'est dans tes dates. Envisagé et tout sera possible dans la mesure où ce qui est vital c'est de mais finir ça, arrêter de ça, dire ça c'est ça ça pourra pas ou ça ça pourra pas tout sera possible.
Non que Daniel, un ce endroit... qui est vital.
Mais non, tout Daniel, n'est pas possible.
Daniel, ce qui est vital,
tu pourras pas faire vital... tu pourras pas faire un championnat avec des stades pleins au mois de juillet. Ça c'est non, impossible. Je crois pas
ce qui est vital sera la plupart du temps huis clos, mais l'idée que là il peut y avoir 3 personnes et que là il peut y en avoir 0 et que ça, on s'en fout.
Non, l'important, mais Daniel, c'est que ça Daniel, joue. Daniel, ce qui est vital, c'est pas que ça joue. Ouais. Ce qui est vital, c'est que cette épidémie, on casse
la chaîne
de
Willy,
transmission.
Mais ça, c'est que ça. Willy, mais on sait bien ça. Mais ça, ça mérite même pas d'être précisé.
Moi, j'ai simplement, tu vois, Daniel, pour tous ceux qui veulent prendre des risques inconsidérés, moi, j'ai simplement une question à poser. Si demain tu reprends la saison, même à huis clos, que t'as un joueur de foot qui est contaminé et qui va y passer. Qu'est-ce qu'on va dire après ? Ah ouais, mais on a fait... Ah ouais, c'est, on est désolé. Ah là là, c'est triste. On va dire ça ?
Mais les mecs, si
non, mais tu t'imagines, reprend,
t'auras
tu
des tests. Mais d'ici là, t'auras des tests pour tout le monde.
Mais c'est pas parce que tu te fais tester, Daniel, c'est pas parce que tu te fais tester que t'es immunisé.
Dans ces cas-là, tu ne rejoueras jamais. Hein. Tu ne rejoueras jamais. Tant que t'as pas le vaccin, tu ne rejoueras jamais dans ce cas-là.
Ah, mais il y a peut-être un moment donné, il y aura peut-être des périodes un peu plus propices à ça.
Voilà. Messieurs, on va revenir dans un instant, continuer à discuter de tout ça. On vous parlera de l'UEFA qui demande au championnat de ne pas s'arrêter. On vous parlera également de Griezmann qui n'est pas vraiment intéressé par un départ du Barça. C'est pas une grande surprise. Et puis Daniel nous fera un point complet sur le service contentieux de la Ligue qui sera géré par un nouvel employé, un certain Nasser El Khelaifi. On revient dans quelques instants. Vous nous appelez également pour participer au quiz. C'est à la fin de cette émission, dans les 20 dernières minutes. Donc, aux alentours de 23h40. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Timothée Mémon.
22h22, faites un vœu de retour dans l'after. On va continuer de discuter de l'actualité du jour en termes de football. Tout à l'heure, on l'a dit, Daniel l'a dit en un mot, l'UEFA a demandé au championnat de ne pas s'arrêter suite à l'annonce faite par la Ligue belge demandant l'arrêt définitif de la Pro League. Eh bien, l'UEFA a réagi. Il est d'une importance capitale que même un événement perturbateur comme cette épidémie n'empêche pas que nos compétitions soient décidées sur le terrain, conformément à leurs règles, et que tous les titres sportifs soient attribués sur la base des résultats. Nous pensons que la décision d'abandonner les compétitions nationales est à ce stade prématurée et non justifiée. Voilà ce que dit l'UEFA. Message clair, Lionel.
Oui, bah bien sûr, mais on le disait depuis le début. Alors après, voilà, ça va s'étaler dans le temps. C'est tout, c'est clair, c'est net, c'est précis. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est encore une fois, ça veut pas dire que on privilégie le football par rapport à ce qui est en train de se passer, mais que on va décaler dans le temps et que bah voilà, c'est primordial pour la survie de tous les clubs européens.
Griezmann n'est pas intéressé par un départ du Barça. Pas question pour le numéro 7 des Bleus. On avait pas mal entendu parler d'un échange entre Neymar et Griezmann. D'une source proche du dossier et une information RMC Sport, il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs. Antoine Griezmann a mis du temps à rejoindre le Barça. Il travaille encore aujourd'hui à son intégration au collectif qui a connu quelques ratés en début de saison, mais il privilégie la stabilité. Antoine Griezmann a rejoint un club l'été dernier pour le club du Barça pour 120 millions d'euros. Aujourd'hui, voilà, il réfléchit plutôt à son intégration. Messieurs, rapidement...
Ah, c'est normal, il ne va pas être en situation d'échec. Il veut absolument s'imposer dans ce club maintenant, qu'il parte à la fin de cette saison qui en plus se termine de façon un peu étonnante, en disant, bon ben voilà, j'ai pas réussi, on m'a mis un coup de pied dans le cul, il faut que je me barre. Je peux comprendre que ça ne fait pas partie de ses priorités. Hein.
Willy ?
Ah oui, non, moi je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec toi, Daniel. Tu vois, c'est un joueur du calibre de Griezmann ne peut pas se permettre de venir au Barça et de repartir après un an sur un constat d'échec, parce que au jour d'aujourd'hui, si la carrière de Griezmann au Barça devait s'arrêter aujourd'hui, c'est clair que ça serait un échec. Et je pense que c'est un joueur qui fait partie de nos meilleurs joueurs français, qui est un joueur de calibre international. Et ce genre de joueur doivent réussir dans les grands clubs. Donc, même s'il lui faut un petit peu de temps, moi, j'ai confiance dans le fait qu'il y arrive.
On continue avec
D'autant plus qu'il a besoin, hein, il a besoin de communiquer comme ça, de la sorte, pour parfaire son intégration. T'imagines s'il disait l'inverse? C'est un truc de fou. Non, c'est
ouais,
normal.
Bien sûr. Après, ça n'empêchera pas les rumeurs, il va y en avoir des tonnes. De toute façon, tant que Neymar ne sera pas retourné au Barça, et c'est pas sûr qu'il y retourne un jour, ce sera évoqué sans arrêt, et Neymar doit retourner, et à partir du moment où la rumeur, il faut qu'il y retourne, donc ça veut dire qu'il y a un mec qui doit s'en aller, ce sera sans fin, et comme ce sont les médias espagnols qui entretiennent les rumeurs que nous on reprend bêtement, de toute façon, et que eux, c'est une presse qui vide ce genre de choses-là, et qui assume en plus être prête à inventer un peu n'importe quoi, ça n'arrêtera pas.
On continue donc avec les informations du jour. Et Willy, je vais te demander ton avis sur la reprise de l'entraînement à Schalke. Les joueurs du club allemand de Schalke 04 sont sortis de leur isolement pour effectuer leur premier retour à l'entraînement. Alors avec des règles bien particulières, coronavirus oblige. Le club dans lequel évoluent notamment Todibo ou Stambouli a organisé une première séance bien particulière, sans opposition évidemment. Les joueurs de David Wagner ont respecté les mesures de distanciation sociale. Ils ont fait des footings deux par deux en étant séparés de 2 mètres chacun. Ça vient en fait un petit peu agrémenter les exercices faits à la maison. On a l'habitude d'un peu plus de rigueur, d'autogestion en Allemagne, Willy.
Et après, c'est le confinement allemand est un peu différent du confinement français. Il y a des choses autorisées là-bas qui ne le sont pas chez nous. La situation au jour d'aujourd'hui, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, la situation au jour d'aujourd'hui, elle est quand même bien meilleure en Allemagne qu'en France.
Si les clubs, ils sont testés là-bas, hein, Willy.
Oui, ils sont testés régulièrement.
Il y a plus de tests.
Il y a plus de tests. Après,
ça a l'air de marcher un peu mieux quand même.
Mais après, c'est le fonctionnement allemand aussi, en termes de fonctionnement, de structure, de logistique. En Europe, il y a pas mieux, et on le sait. Et puis c'est pas, il y a pas que sur le foot. On le voit même maintenant sur tout le reste. Que les joueurs reprennent comme ça, je pense que ça doit leur faire du bien de ressentir l'odeur de la pelouse, de revoir peut-être leur vestiaire. Je pense que ça leur fera du bien. Après, quant à la reprise du championnat, je pense qu'ils sont comme nous. Ils sont en attente de l'évolution de cette épidémie et des décisions des pouvoirs publics.
Tu crois qu'ils vont dans les vestiaires, Willy ?
Non, mais j'en sais rien. Quand je te dis les vestiaires, c'est revenir au camp d'entraînement. Je pense que non, ils arrivent avec leur voiture, avec leur fringue.
Ils font l'entraînement, ils rentrent.
Ils rentrent chez eux, ils prennent la douche chez eux, ils font tout chez eux.
Je pense aussi, ouais.
S'il y en a un qui l'attrape, effectivement, ça peut faire carrément scandale.
C'est un peu ce que mon état d'esprit par rapport à ce qu'on veut faire en France. Faut quand même faire attention. Là, on n'est pas. Entre des morts et la survie de 2-3 clubs, moi j'ai fait mon choix. Hein. Je suis désolé pour les 2-3 clubs peut-être qui vont disparaître, mais ça c'est pas la priorité. Ça doit pas être la priorité.
Messieurs, on continue à dérouler les informations de cette journée. Et là, j'en appelle à Daniel, qui avait vraiment l'envie, en préparant cette émission, de parler de ce sujet. Tout à l'heure, j'ai parlé du service contentieux. C'est plutôt le service recouvrement de la Ligue de football. On a appris aujourd'hui que c'est Nasser El Khelaïfi, avec Jean-Pierre River, Hérault et Sadron, des présidents de Ligue 1, qui vont aller un petit peu au feu pour récupérer les traites du mois d'avril. Ça devait tomber le 5 avril, 110 millions d'euros que doit verser Canal+. Alors, El Khelaïfi est le président du Paris Saint-Germain, mais c'est aussi le président de Bein Media, diffusé à partir de juin par Canal. Donc, en fait, forcément, ça sent un peu les conflits d'intérêts.
Ouais, non, en fait, je trouvais que la situation était absolument cocasse. tous les présidents qui se plaignent toujours de l'omnipotence du PSG, des moyens du PSG, machin. D'un coup, ils se sont tous dit, bon, tiens, Nasser, t'as qu'à y aller. Bon, parce qu'ils ont fait un petit groupe, hein, mais évidemment, c'est plutôt Nasser qui va y aller. Donc,
okay, et pourquoi
Nasser,
c'est pas la Ligue?
Justement, il y a eu un petit problème parce que la Ligue
on va y venir,
s'est fait un petit peu doubler sur cette affaire-là, et que on a les clubs se sont mis d'accord pour faire une petite délégation de quelques présidents, mais en gros le boss de ce petit groupe, c'est Nasser Al Khelaifi, qui va donc aller discuter, négocier avec les diffuseurs pour leur dire, écoutez, filez quand même l'oseille. Je trouvais que la situation était cocasse et j'avais envie d'en parler parce que d'abord, t'as tous les clubs, donc je répète, qui se plaignent toujours du pouvoir du PSG, de son oseille, de ceci, de cela. Notamment au LAS. Là, d'un coup, il dit, ouais, pas de problème, vas-y toi pour nous récupérer notre oseille. Ok. Mais il va récupérer l'oseille avec des gens dont il est en business, à qui il a souvent dû des droits pour l'année prochaine, mais il va aller voir, et ça, c'est même pas que c'est cocasse, c'est qu'on frise le ridicule, il va aller voir son adjoint, qui est le patron de Bein, pour lui dire, dis donc, Youssef.
Ah, parce que Bein doit également verser 40 000.
Youssef, c'est son employé, hein, Nasser. Il va lui dire, et au fait, et pourquoi tu veux pas filer l'oseille?
Bah, déjà, millions de gagnés d'un coup. En envoyant
Nasser. Je sais pas si on se rend compte.
Ils ont peut-être choisi Nasser parce qu'au moins pour Bein, ils n'ont plus à négocier. Il peut pas les réclamer.
T'as déjà ramené 40 millions.
Non, mais vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord que c'est quand même.
C'est cocasse, Daniel. C'est un petit peu fou.
Et au final, je termine et vous me donnerez votre avis. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en gros, pour l'oseille, c'est le Qatar qui va sauver la Ligue 1, comme il l'a sauvé dans le dernier appel d'offres. C'est le Qatar qui va dire, ok, ils vont dire à Canal, bon, donne un peu, nous on va rajouter, enfin bon, voilà. Résultat, oui. Les clubs ont en fait demandé à Nasser et indirectement au Qatar, sauvez-nous. Donc, j'attends la rentrée quand les gens seront débarrassés de ce mal qui nous ronge en ce moment dans notre société. J'attends les banderoles anti-Qatar, j'attends les sorties de président anti-Qatar, j'attends les propos de Jean-Michel Aulas dans quelques mois pour se plaindre de tout ça, alors que, encore une fois, l'argent qu'il y a dans les clubs en France viendra du Qatar, du PSG. En fait, c'est le PSG qui va sauver tous les autres clubs.
Avant de réagir, j'étais pas allé aussi loin dans mon analyse de cet article de nos confrères de l'équipe. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ça, Daniel? Donc pour toi, il y a une réflexion à tiroir qui vise à dire au Qatar de carmer pour.
De toute façon, qu'est-ce qui s'est passé au dernier appel d'offres? Je suis désolé. Pas au dernier gagné par Mediapro, à celui d'avant. Depuis que le Qatar est rentré dans la danse, c'est eux qui ont gonflé les droits télé. Finalement, c'est eux qui ont sauvé la Ligue 1 dans l'avant-dernier appel d'offres pour qu'il y ait toujours des montants élevés. Et là, une nouvelle fois, qu'est-ce qui va se passer? Nasser, il va pas dire à Youssef, non, tu payes pas. Hein. Il va lui dire, envoie l'oseille, là, sinon on va tous être dans la merde. Et tous mes petits potes, ils vont m'en vouloir à moi, ils vont en vouloir au PSG, tout ça. Et puis il va aller voir Canal, il va dire, tu payes? Non, je veux pas, tu payes? Non. Et puis peut-être, c'est peut-être lui qui va couvrir. Évidemment que le Qatar va sauver la Ligue 1. C'est gros comme une maison.
Alors, messieurs, il y avait une très bonne question de Lionel tout à l'heure. Effectivement, il y a eu consensus pour envoyer Nasser Al Khelaifi gérer ce dossier trois autres présidents de Ligue 1 que sont Sadran, River et Héros.
Sadran, Sadran, il vend son club, il compte même plus. Sadran, il vend trois queues de cerise dans le foot.
Ce qu'on note et ce que notait Lionel, c'est que dans ce quatuor chargé du recouvrement, il y a personne de la Ligue. Ça, c'est quand même quelque chose de fort. Et c'est quand même une perte de pouvoir de la Ligue.
Est-ce par que rapport c'est à pas un désaveu?
Je suis pas sûr, parce que la Ligue, elle a beaucoup négocié en sous-main. Et finalement, qu'un groupe de présidents. N'oublions pas que de toute façon, le contrat, il est voté par les présidents, donc ce sont les présidents, les patrons.
Oui, mais le contrat du droit télé, il est signé avec la Ligue, pas avec les clubs. Ligue, ouais. Donc c'est quand même étonnant de voir que la Ligue, pour que le contrat soit respecté, envoie une tierce personne, d'une certaine manière, même si on a bien compris que ce n'était pas le cas, en la personne de Ralifi pour aller récupérer cet argent. C'est quand même là aussi, ça ajoute au côté.
Est-ce que c'est pas Canal qui a demandé, excuse-moi Timothée, je suis en train d'essayer de trouver des réponses à ma question. Est-ce que c'est pas Canal qui a demandé à rencontrer justement quatre membres plutôt que un membre de la ligue, à rencontrer quatre présidents de club?
En tout état de cause, ils auraient pu envoyer quatre membres et une personne de la ligue. Moi, je trouve ça hallucinant qu'il y ait personne dans le lot.
Moi, je trouve pas ça si fou que ça. Moi, si t'as envie d'être un peu choqué,
quelque part, si, quand même, Daniel.
Encore une fois, le contrat, il est signé entre deux personnes.
Oui, mais d'accord, mais ce sont indirectement, ce sont les présidents qui dirigent la ligue. De toute façon, c'est eux qui élisent les membres représentants, le président, le directeur général.
Ça c'est une vraie exception française. Hein. On parle souvent de l'exception française ou de la particularité française, c'est dans le cinéma par rapport au film qu'on fait ou par rapport à, je sais pas, à plein d'autres choses. L'exception, c'est pareil encore dans le foot, l'exception française. Quand tu prends la ligue allemande, quand tu prends la ligue anglaise, quand tu prends la ligue espagnole, ça marche pas comme ça. Mais moi, c'est pour revenir sur...
Comment ça marche pas comme ça? C'est les clubs puissants qui sont importants à la ligue, quoi qu'il en soit.
Oui,
en Italie, pendant longtemps, Galliani était président de la ligue et président du Milan AC en même temps. Le poids d'Ulyonès à la Ligue, il a toujours été considérable. Hein. Alors, le poids du Bayern dans les instances, il était phénoménal. Hein.
Le poids du Bayern a de l'importance, oui, mais il n'y a pas une forme de, à un moment donné, de subordination dans les responsabilités, dans la hiérarchie. À un moment donné, en Allemagne, de toute façon, après,
elle ne pourra jamais rien imposer. La Ligue ne peut pas imposer des choses aux clubs, puisque ce sont les clubs qui décident. De toute façon, après, on
touche à des choses culturelles. En Allemagne, c'est comme avec les syndicats. En Allemagne, tu as des syndicats qui vont toujours être dans la négociation, dans le discours, dans la prévision éventuellement des problématiques. Oui. Chez nous, on est dans des syndicats de combat. C'est exactement la même chose. Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Alors oui, comme toi, je trouve que la situation, elle est cocasse, que ça soit Nasser qui y va. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis... Oui, mais après, j'attends ceux qui vont revenir encore et qui vont critiquer le Qatar. Alors, très bien si... par le biais que Nasser soit là et que parce que c'est le Qatar que tout s'arrange et que les clubs y prennent leur pognon et que donc qu'il n'y ait pas d'autres difficultés financières, je dis tant mieux. Mais Daniel, tu vas pas me le dire à moi et puis tu vas pas nous le dire à nous que le Qatar, depuis qu'ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, ils sont nus pour les beaux yeux de la Ligue 1. Leurs objectifs sont largement ailleurs.
Ils sont ailleurs, ils sont dans le foot, ils sont à plein d'endroits différents, mais on découvre rien. Donc, juste précision, et je remercie mon ami Christian de me préciser ça. C'est Saada qui a choisi les interlocuteurs, donc le boss de Canal.
Ah, ok.
Et le fait qu'il choisisse et que ce soit Nasser qui aille, personne avec qui il est en business indirectement par le biais de Bein, bon voilà, ils vont se mettre d'accord entre eux. S'ils arrivent à se mettre d'accord, et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il est possible que le Qatar, par le biais de Bein, enfin bref, ils vont essayer de trouver un accord de cette façon-là. Et puis, encore une fois, il y a une telle volonté absolue de finir la saison, quoi qu'il en soit, ce différend financier finira par se régler, je pense.
Alors, un dernier prisme quant à cette information. On apprend notamment que sur ce sujet, Nasser El Khelaïfi a été vraiment proactif, qu'il a un peu montré les dents. Il était arrivé dans la Ligue 1 un peu sur la pointe des pieds en expliquant qu'il voulait apprendre auprès d'autres présidents. Là, on voit que Jean-Michel Aulas, qui est souvent aux avant-postes sur ce genre de dossier, laisse la main. On voit également que l'ensemble des clubs de Ligue 1, que des personnalités comme Bernard Caiazzo, par exemple, qui aussi sur ce genre de dossier a des compétences, ont accepté de laisser le leadership à Nasser El Khelaïfi et effectivement à la demande de Saada de Canal+. Voir aujourd'hui El Khelaïfi jouer un rôle locomotive dans ce dossier-là, c'est qu'enfin il tient sa place à la tête d'un grand club. Il est aussi prédominant dans le fonctionnement des institutions.
Enfin. C'est juste normal. Pendant longtemps, il s'était tenu à l'écart. Il faut dire qu'il a tellement de casquettes qu'il ne sait plus quoi en faire. Il ne sait plus comment.
J'ai cru que tu allais dire. J'ai cru que tu allais dire casserole plutôt que casquette.
Non, casquette. Daniel. Donc, c'est juste normal qu'à ce moment-là, il se mette en avant et qu'il a réglé ça. Et puis, si Saada, en plus, a voulu que ce soit lui qui, avec qui il devait parler, bon, ben voilà, quoi.
Non, puis culturellement, à la base, c'est pas. Quand tu connais un peu sa culture, et cette culture, ce sont pas des gens qui viennent et qui s'imposent comme ça. Je pense aussi qu'il a été très intelligent. Il a appris notre culture et il voit aussi qu'il faut un petit peu voilà rentrer dedans et je pense que voilà il devient un président à la française je dirais et donc c'est aussi pour ça qu'il montre un peu les dents maintenant qu'il va au front et puis tu sais moi je c'est pas que je veuille le défendre, mais j'entends souvent des personnes qui disent « Ah, faudrait mettre un autre président que Nasser, tout ça, c'est mon avis personnel. » De toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra que ce soit au PSG un président qui est l'image du Qatar. Quel est le mec aujourd'hui qui a le plus d'expérience, qui a, ne serait-ce que par l'expérience avec l'image du Qatar, meilleur que Nasser ? Franchement, il n'y en a pas. Moi, j'en vois pas. Donc, pour moi, c'est vraiment la personne idoine pour le PSG, même s'il y en a beaucoup, et je vais offusquer pas mal de Parisiens, mais on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on perd.
Merci beaucoup messieurs. En tout cas, il semble net au regard de cette information que Nasser El Khelaïfi prend un peu plus d'épaisseur dans le paysage des institutions françaises à mesure que la Ligue semble lâcher un peu de lest au président des différents clubs. Voilà ce que l'on peut ressortir. Dans quelques instants, on va vous parler du football amateur qui se pose beaucoup de questions en cette crise sanitaire. Dans la deuxième heure, je vous l'ai promis, un sujet bien putassier sur les traîtres, les Judas, les parjures de la Ligue 1, des différents championnats. Et puis le quiz, vous nous appelez au 32-16 pour participer avec Daniel, avec Lionel et avec Willy. A tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
22h40 de retour dans l'After. Alors évidemment, on a tous nos consultants qui sont là avec nous. Il y a Daniel Riolo, il y a Lionel Charbonnier, il y a Willy Sagnol. Et alors, ils sont à présent parfaitement concentrés puisque Koh-Lanta est terminé, n'est-ce pas, Lionel? Donc
ouais, voilà. Alors j'échange des réponses du quiz contre le verdict de Koh-Lanta.
Ouais non mais ça c'est honteux. J'ai reçu effectivement un texto de notre producteur. Si tu as les réponses du quiz, envoie-les tout de suite, sinon je te dis qui sort à Koh-Lanta. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. C'est quand même moche, très très moche. Voilà, parce qu'évidemment, Arthur Robert ne veut pas savoir notre producteur, il veut pouvoir se le regarder en replay tranquille, et on va pas lui gâcher son plaisir, à moins que, on verra s'il est sage. En tout cas, retour à l'actualité football, on a décidé de s'intéresser un petit peu au football amateur. Alors, dans une prochaine émission, on ira s'intéresser.
C'est pas machin qui devait sortir dans Koh-Lanta.
À vos tout petits clubs.
Daniel.
Ah. Mais non, mais parce que moi, j'ai dans mes relations un ancien vainqueur de Koh-Lanta. Donc,
oui, forcément.
Il est très au fait de ce qui peut se passer et tout. Et je sais pas, bon, voilà, il me semblait que.
Il s'agit de Moundir, évidemment, on parle de Moundir.
Je sais plus, un
match. Je peux pas me permettre. Comme ça.
Ah, mais arrête, Daniel, s'il te plaît, je vais regarder en replay après, arrête.
Ah, pardon.
Mais Willy aussi, incroyable. Vous allez voir. Très belle épreuve des paresseux. Bref, on a suffisamment fait la pub de cette émission. Parlons de la nôtre, si vous le voulez bien. After, c'est donc jusqu'à minuit. On est ensemble, allez, encore pendant une heure et quart. Et oui, je vous le disais, dans une prochaine émission, on va s'intéresser aux clubs amateurs, à vos clubs, aux clubs de district, aux tout petits clubs, aux clubs de quartier qui ne peuvent plus jouer leur rôle social leur vie, leur survie dans cette période de crise. On a décidé aujourd'hui de parler de football amateur, mais on va dire aux portes du professionnel, d'un football amateur, voilà, niveau national, National 2, National 3, des clubs qui ont des salaires à payer, des joueurs à payer, alors certes pas au prix de la Ligue 2 ou de la Ligue 1, mais qui ont quand même des charges salariales et qui aujourd'hui sont face à une certaine inquiétude, face à cette crise sanitaire qui, comme finalement toutes les entreprises, toutes les PME de France, sont dans la difficulté. Ils ne font pas exception. Et pour parler de ça, on accueille Jean-Pierre Skouarnec. Il est le président de Dunkerque et également de l'Union des clubs des championnats français de football. Bonsoir Jean-Pierre Skouarnec.
Bonsoir messieurs et un bonsoir particulier à monsieur Lionel Charbonnier avec qui je suis resté assis à côté en regardant un match qui était Dunkerque à Dunkerque.
C'est vrai. Dunkerque. Des bons souvenirs.
Ouais, ouais, on était tous les deux. Je me souviens parfaitement du stade avec une. Vous avez toujours le même stade avec la piste, tout ça?
Non, le stade est en complète réflexion et la première tribune a été ouverte il y a maintenant 3 mois avant la pandémie. Et donc, la tribune dans laquelle on était, c'est la tribune officielle, a été mise de l'autre côté avec des loges. Et la tribune où on était va être abattue à la fin de la saison pour en faire une nouvelle également.
Voilà, en espérant tous pouvoir les remplir le plus vite possible, ces tribunes, ce sera nécessairement une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, Jean-Pierre Skouarnec, vous avez décidé aujourd'hui de soutenir l'idée que les saisons de National, de National 2, de National 3 puissent se terminer. C'est une nécessité aussi financière pour les clubs comme le vôtre ?
Oh, avant tout, c'est une nécessité sportive. On peut pas aujourd'hui, à 9 journées de la fin du championnat, estimer que le premier sera le premier dans 9 journées et le dernier sera le dernier dans 9 journées. Il y a des écarts de points très serrés dans le national. Dans le national, pardon, Lionel connaît ça très bien. Et donc, en 9 journées, il peut tout se passer. Les 3 premiers actuels dont on fait partie peuvent se retrouver 6e, 7e et les 4 derniers peuvent sortir de la zone rouge. Donc c'est vrai que éthiquement parlant et équitablement parlant, il est mieux de finir le championnat que de le laisser là où il en est. Après, la partie financière, elle est tout autre. Il est vrai que la pandémie actuelle, on a une pensée bien sûr pour les gens qui souffraient, les soignants et les gens qui travaillent également, fait que pour ceux qui ne travaillent pas, par contre, on sait très bien qu'on aura des rentrées en sponsoring et en mécénat qui seront inférieures à celles prévues et budgétées, puisque des sociétés qui ne travaillent pas ne pourront pas honorer leurs engagements avant la fin de la saison. Et d'autre part, si nous continuons à jouer, et c'est ce qu'on va faire après le 30 juin, c'est pas budgété. Cette partie-là n'est pas budgétée puisque nos contrats durent un an jusqu'à la fin du 30 juin.
Et on imagine que dans vos effectifs, vous avez aussi des joueurs purement amateurs. C'est peut-être pas le cas de votre effectif, mais en National 2, en National 3, il y en a qui ont un travail, qui n'ont pas peut-être la possibilité de continuer à travailler pendant la période estivale. C'est le seul moment, la seule fenêtre pour profiter de leur famille.
Oui, on a des joueurs sous contrat fédéraux dont c'est le métier d'être joueur de foot, qui sont, on peut dire, professionnels. Et ensuite, on a des joueurs, entre guillemets, on a un joueur semi-professionnel qui travaille à mi-temps et on a des jeunes joueurs qui sont en train d'apprendre pour pouvoir évoluer bientôt dans le championnat de national et qui, eux, sont moins rémunérés et qui, donc, touchent moins d'argent, effectivement. Maintenant, la politique de l'USLD a été de garantir les salaires des joueurs sur de la totalité à partir du moment où ils ont été mis au chômage partiel il y a maintenant 3 semaines.
Alors, un petit rappel de base, la Ligue nationale de football professionnel gère les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. La Fédération française de football gère l'équipe de France, la Coupe de France et les clubs amateurs. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous estimez que, étant donné votre statut que l'on pourrait qualifier de semi-professionnel, vous avez des joueurs professionnels, vous en avez d'autres qui ne le sont pas, est-ce que vous estimez que les divisions de National, les clubs de National devraient s'émanciper de la Fédération française de football pour gérer des problèmes qui leur sont propres, qui sont autres que les problèmes des clubs de district et autres que les problèmes de l'équipe de France?
Non, non, personnellement, je vois aucune raison de s'émanciper de la Fédération française de football. On travaille avec le 2C2F de manière collégiale avec la Fédération française de football. On tient des commissions paritaires tous les ans avec l'UNICATEF et l'UNFP et le GEF. Donc, il n'y a pas de souci, c'est sous l'égide de la Fédé, ça se passe très bien. Et les discussions qu'on a aujourd'hui avec la Fédé sont très constructives. Donc, on a vraiment des très bonnes relations avec la Fédé. Maintenant, la pandémie a fait qu'à un moment donné, le championnat a dû s'arrêter. Et de fait, nous, les rentrées d'argent, actuellement, on n'en a plus. On a demandé que la Fédé verse le dernier tiers de ce qu'elle nous devait pour la saison. Il y a mardi dernier, elle l'a fait. Donc la Fédé nous aide, quoi qu'il arrive. Et donc, on l'en remercie d'ailleurs. Mais d'un autre côté, on a juste fait un calcul en se disant et en demandant à des spécialistes du domaine de la médecine du sport et de la préparation physique combien de temps il faudrait se réathlétiser pour pouvoir reprendre la compétition. On est arrivé à 5 semaines. calcul fait, on s'est dit si on reprend le après le 15 avril, puisque la date aujourd'hui de confinement est le 15 avril, si on reprend le championnat, donc on va dire le 10 mai à peu près, on est capable de finir le championnat au 30 juin. Donc on attendait derrière ce que la Fédé allait nous dire. Aujourd'hui, la Fédé a dit que le football amateur s'arrêterait au 30 juin. Nous, on est considérés comme championnat fédéraux. Et donc, à partir de ce mois-là, on peut aller plus loin que le 30 juin. Donc, dès qu'on pourra jouer dans des conditions qui permettent à nos joueurs d'être, comment dirais-je, en sécurité, dès qu'on pourra rejouer, ben on rejouera. Ça fait partie de notre rôle et aussi de notre rôle social, quoi qu'il arrive.
Jean-Pierre Skornec, président de Dunkerque, simplement, je vous posais cette question
On n'est pas si éloigné que ça des pros, finalement. La volonté de terminer, la possibilité, comme moi je l'évoquais tout à l'heure pour les pros, de terminer, on va dire, au début de l'été. Les positions sont pas si éloignées de ce qu'on entend chez les pros. Hein.
Des positions pas si éloignées. Et comme chez les pros, il y a des dissidents. Le président de l'AS Saint-Priest, c'est dans la région de Lyon, Patrick Gonzalez, demandait, lui, pour le coup, de créer une fédération, une ligue qui soit propre au club de national, justement pour gérer ces problèmes propres à vos clubs semi-professionnels.
Parce que c'était un peu ma question, parce que je pense que là-dedans, dans les clubs de national, t'as bon le national, ensuite t'as le national 2, et à partir où ça peut aller engendrer, on peut englober national 2, mais à partir du national 3, je peux te dire qu'il y a des clubs qui sont complètement amateurs. Et là, il y a des vrais soucis. On n'a pas du tout les mêmes mentalités. Le foot est vraiment très accessoire. Moi, j'ai eu à gérer quand j'ai voulu rendre aux amateurs ce qui m'avait permis d'être. Je suis allé dans le milieu amateur. Je suis allé jusqu'en National 3. Enfin, j'ai commencé en National 3. Et je peux te dire que t'es aux antipodes du professionnalisme. Les joueurs, ils s'en moquent complètement du foot. Ils viennent là. T'as le maçon qui sort et puis qui va faire son truc pour s'amuser, et lui il pense qu'un truc, c'est aller chercher son salaire et rester confiné pour pouvoir aller travailler, parce que il va falloir mettre de la tambouille, va falloir remplir les gamelles aux enfants et tout ça, et c'est pas avec le football qui va réussir. Et donc que en national et national 2 on en vit quand même, attention.
Ouais, alors oui, justement
on en survit.
Jean-Pierre Skornec, rapidement.
Oui, alors tout à fait, Lionel a raison, que ce soit la régionale 1 qui s'arrêtera le 30 juin est quand même très proche du national 3 au niveau de la mentalité, au niveau des effectifs, où il y a moins de joueurs sous contrat fédéral et donc à pochons fédéraux. Et par contre, le national 2 est très proche du national 1 et on y trouve beaucoup plus de joueurs sous contrat fédéraux. Donc c'est vrai qu'il y a une différence entre national 1, national 2, national 3 et régional 1, puisque ce sont des championnats qui sont assez liés. Mais maintenant, s'affranchir de la 3F, l'idée du président de Saint-Priest, c'est son idée. Maintenant, la 3F aide les clubs fédéraux, que ce soit les clubs de National, les clubs de National 2 ou les clubs de National 3, d'une manière financière. Donc s'affranchir de la Fédé, c'est bien, mais simplement, comment vous fonctionnez derrière? Parce que les clubs reçoivent, nous avons, nous, en championnat de National 1, 230 000 euros que nous recevons de la Fédération Française de Football pour être inscrit en championnat de France de National 1. Alors bien évidemment, il y a des critères, DNCG, etc. Et vous avez, si mes souvenirs sont justes, 80 000 euros en National 2 et vous devez avoir 35 000 euros en National 3. Si jamais, et plus les frais des indemnités kilométriques que l'on a également quand on se déplace, sachant que pour le National 1, on fait tout de la France. La nationale 2, c'est régionale et la nationale 3 est départementale. Donc ces aides-là vous aident quand même à faire votre budget pour la saison qui démarre. Si vous perdez ces aides-là, parce que je veux bien s'affranchir de la 3F, mais après, de quelle manière vous arrivez à monter un budget et avec quels moyens? Aujourd'hui, on n'a pas de droit télé, on n'a rien du tout, donc on a les communautés d'agglos, on a les mairies, on a la région, on a les départements, pour certains, hein, pas pour tous, on a les sponsors, on a les mécènes, et puis de temps en temps, un président qui met son argent, parce que pour que le club fonctionne, il faut qu'il en mette. c'est mon cas, donc je le cache pas.
Alors justement, on va se rapprocher un petit peu aussi des clubs encore un petit peu plus bas que les vôtres, des clubs de district pour ainsi dire. Thierry Mercier, le président du district du Val-de-Marne, est avec nous. Merci beaucoup Thierry d'avoir attendu et d'être avec nous ce soir.
Avec plaisir, merci à vous. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Thierry.
Alors,
Bonsoir Thierry.
Dans ce genre de situation, vous êtes président du district du Val-de-Marne. Est-ce que vous avez déjà des retours, des interrogations, des demandes de clubs qui se sentent en danger? De petits clubs?
Oui, on va en parler, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Pierre Skornec, c'est que la priorité d'abord, c'est la santé. Et le football doit se montrer solidaire. On a peut-être un petit peu plus, mais je suis même pas sûr, au niveau départemental, un rôle social et sociétal encore plus important, parce que c'est vraiment le foot plaisir. Mais défendre la santé de tous, le foot doit absolument rester solidaire. Je crois que ça doit être la priorité des priorités. Alors après, évidemment que j'ai des contacts avec mes présidents de clubs. On parle de la reprise des compétitions. Je leur ai même fait faire un petit questionnaire, moi aussi, pour leur demander ce qu'ils souhaiteraient, parce que faut savoir que c'est pas nous qui allons décider. Forcément, c'est l'État, le gouvernement qui va prendre des décisions sur quand la fin du confinement. Et le football, c'est la Fédération française de football qui décidera de quelque chose. On sait aujourd'hui qu'après le 30 juin, on pourra pas jouer. J'entendais Jean-Pierre Skornec qui disait qu'il lui restait 9 matchs. Ils sont pro, semi-pro. Nous, ce sont des amateurs. Et la priorité, je l'ai entendu aussi dans la bouche de Jean-Pierre Charbonnier. Pas Jean-Pierre, de Lionel Charbonnier. Si Jean-Pierre,
c'est mon papa.
Son papa et moi, on était collègues pendant longtemps au sein de l'association des présidents.
C'est pas grave, hein, personne n'est parfait. Hein. Vous le savurez quand vous l'aurez.
Vous le disiez Thierry, pour les clubs purement amateurs, les championnats qu'on a qualifiés de loisirs, ça s'arrêtera de toute façon au 30 juin.
Ben, moi c'est ce que je pense, puisque la Ligue fédérale amateur, par la bouche de son président Marc Barba, a dit qu'on ne jouerait pas au-delà du 30 juin. Alors Jean-Pierre Skornec disait qu'il lui restait 9 matchs à jouer. Nous, pour aller au bout des compétitions, on est aux deux tiers. Je sais plus, c'est 14 matchs qu'on a fait ou 15, donc il en reste 7 ou 8. Il parlait de la réathlétisation tout à l'heure. Je pense qu'il y a des spécialistes autour de la table qui sont aussi entraîneurs et bien plus entraîneurs que moi. Mais moi, une préparation 4 à 5 semaines, ça me paraît être un minimum. Donc pour jouer très peu de matchs, je vois pas quand est-ce qu'on va pouvoir terminer le championnat. Par contre, ce qui est une certitude, c'est qu'il faut qu'il y ait un classement. Parce que même si en district on pourrait clôturer la fin de la saison en se disant tiens, il y aura pas de descente, on va faire que des montées et récupérer sur la saison d'après, ça paraît un petit peu hasardeux quand même de le faire au niveau supérieur. Hein, ça me paraît totalement déplacé de le faire au niveau supérieur. Nous, on pourrait s'en tirer au niveau des districts, sans doute, en mettant deux clubs supplémentaires sur une division et en réajustant à la fin de la saison d'après. Mais je pense pas que le but soit là. L'important aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce qu'on va sortir de la crise et ce qu'on va pouvoir faire derrière. Alors donc, je vous disais que les clubs qu'on a interrogés, on leur a proposé un formulaire en leur demandant quels étaient leurs desiderata. Je peux vous dire qu'il y a quatre choses qui se dessinent, hein, et elles sont un petit peu opposées, quoi. Il y en a qui sont pour le classement final arrêté à la fin des matchs allés, avec des montées et des descentes, mais il y en a beaucoup qui préféreraient sans descente. Il y a un classement final arrêté à la fin des matchs allés et montées, mais pas de descente, je viens de vous le dire. Et ensuite, il y a le classement à date avec le rattrapage des matchs en retard si nécessaire, et un classement au prorata du nombre de matchs joués. Et, mais il y en a qui sont aussi pour une saison blanche. Il n'y a pas tout à fait 20% des clubs qui sont sur une saison blanche. On a interrogé tous les clubs de district. Il y en a à peu près tout à fait 50 qui ont répondu. Ils ont répondu en moins de 48 heures. Mais j'aurais bien précisé très clairement dès le début de la question que dans tous les cas, on se plierait aux décisions qui seraient prise au niveau supérieur et qu'on ferait simplement remonter leur désidérateur au niveau supérieur.
C'est noté. Merci beaucoup Thierry Mercier, Jean-Pierre Scouarnec d'avoir été avec nous pour nous parler du football amateur. On en reparlera du football amateur et notamment des tout petits clubs de district qui souffrent aussi financièrement. On revient dans l'after dans quelques instants. On va vous parler des pires retours des joueurs dans leurs anciens clubs, ceux qui ont trahi le maillot aux yeux des supporters. On revient dans quelques secondes dans l'after.
RMC, l'after foot.